Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
À celui qui a payé le prix de notre rançon. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Ô Jésus, il n'y en a point comme toi dans le ciel et sur la terre. Nos cœurs t'exaltent. Nos cœurs t'exaltent. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être fortifiés encore, Seigneur. Au milieu de nos combats, de nos luttes. Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux. Sois adoré, sois loué, sois exalté. Merci, Seigneur. Merci. Quand nous regardons le monde qui nous entoure, ce monde que nous connaissons si bien et que nous connaissons si mal, ce monde qui nous piège tant de fois par ses apparences de bien, alors que ce n'est que de la fourberie, par ses actions trompeuses, que nous connaissons bien, mais que nous connaissons mal, car tant de fois nous nous laissons abuser par ses artifices, lorsque nous ne restons pas aux pieds du Seigneur pour être éclairés, pour être conduits, pour pouvoir voir ce que l'homme naturel ne voit pas, mais ce que l'Esprit de Dieu voit. Ce monde qui tant de fois est un piège pour nous. Quand nous regardons ce monde qui nous entoure, nous subissons avec ce monde des attaques continuelles de toutes parts. Des attaques sournoises, des attaques non bien perçues, des tentations que nous ne comprenons pas en premier lieu, que ce sont des tentations venant de l'ennemi. Tout nous semble normal, tout nous semble clair, alors que derrière il y a un piège. Ce monde que nous subissons, à travers lequel nous subissons des attaques continuelles, des non-chrétiens contre toutes les valeurs bibliques, contre toutes les valeurs de la morale. Ce monde qui ne cesse de nous attaquer contre toutes les valeurs de vérité et de justice, en essayant par des biais de tout genre de nous persuader que ce n'est pas mal, de nous persuader que les choses sont normales. Ce monde qui ne cesse de nous attaquer de toutes parts, dans toutes les valeurs de la morale, les valeurs spirituelles, nous nous sentons comme Gédéon. Gédéon, nous nous sentons dans toute notre faiblesse et notre incapacité. Devant les hordes des Madianites et d'Amalek, devant les hordes de pilleurs de la morale, de pilleurs de la vérité, de pilleurs de ce qui élève l'homme, de pilleurs de toutes les valeurs préconisées par la parole de Dieu, toutes les valeurs chrétiennes vraies, authentiques, du véritable christianisme, ces hordes de mensonges et d'anti-valeurs cherchent à subjuguer le véritable christianisme. Jusqu'à vouloir dire que maintenant l'homosexualité, ce n'est qu'une différence à l'intérieur de l'individu, dans son cerveau, dans son être intérieur. Le monde veut essayer de nous faire accepter toutes ces choses et nous les faire voir comme étant normales. On en parle d'une façon entre guillemets, normal dans les médias, à tel point qu'à force d'entendre ces choses-là, nous nous habituons et nous pensons plus ou moins, oh bien, c'est comme cela, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le monde cherche à nous habituer aux valeurs contraires à toute véritable morale, morale spirituelle, morale tout court, à tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Et c'est ainsi que la civilisation s'égare de plus en plus à un niveau de bassesse animale. Et nous nous sentons comme Gédéon. Nous nous sentons trop faibles. Nous nous sentons incapables. devant les hordes qui veulent subjuguer le véritable christianisme. Et les enfants du royaume des cieux se sentent si faibles, si incapables. Et Paul disait avec raison dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Notre combat n'est pas un combat dans lequel nous prenons des armes à la main, des revolvers, des kalachnikovs, des bombes, des lance-roquettes. Non, notre combat n'est pas à ce niveau. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà le niveau de notre combat. Notre combat n'est pas contre cet homme corrompu, violent, méchant, haineux, voleur, infidèle. Nous ne combattons pas contre lui, mais nous combattons contre ces puissances du mal qui sont derrière lui pour le détruire et nous détruire à travers lui. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Ne vous vengez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Car cet homme, aussi mauvais qu'il soit, aussi corrompu qu'il soit, aussi violent qu'il soit, aussi criminel qu'il soit, aussi féticheur qu'il soit, c'est une âme pour laquelle Christ est mort. Et Christ a donné sa vie pour lui. Christ l'a aimé suffisamment pour mourir pour lui. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous? C'est d'aimer cet homme, de l'aimer, de lui démontrer l'amour de Christ et les vraies valeurs que nous vivons et que nous défendons, les valeurs du royaume des cieux. Notre ennemi, ce sont ces puissances mauvaises qui poussent cet homme dans le mal et la destruction pour lui-même, et la destruction à travers lui des valeurs du royaume. Soyons conscients de cela. Donc, nous ne sommes pas là le couteau à la main. Nous ne sommes pas là l'arme automatique à la main pour détruire l'autre parce qu'il nous est opposé. Jamais! Nous aimons cet ennemi. Et nous faisons tout pour lui dire qu'il y a meilleur et que nous connaissons meilleur. Et que lui, il est désespéré, car il est esclave de celui qui le domine. C'est-à-dire, ces puissances des ténèbres, ces puissances de mal, ces puissances de déviation contre nature. Allons-nous accepter des déviations contre nature, disant que c'est simplement une différence intérieure de l'homme dans sa physiologie qui a fait que... Non, mes amis, non! Le Dieu de la Bible parle contre toutes ces choses contre nature. La Bible parle de tous ces péchés qui marquent nos générations. Je vous en supplie, mettons en avant les vraies valeurs du royaume des cieux. Mettons en avant les valeurs qui feront de nous d'abord, pendant le temps de cette vie ici-bas, des hommes et des femmes forts et en bonne santé. Quand ils partiront rassasiés de jour. Voilà le terme dont il est employé dans la Bible. Notre monde est dans un déséquilibre. Nous voulons tout faire mieux que les autres. Et en ce faisant, nous nous détruisons. Pourquoi ? Parce que l'argent et la possession matérielle nous intéressent plus qu'à la bonne santé des masses. Et on lance des produits sur les marchés dans nos pays dits développés, dans lesquels il y a des agents destructeurs, des agents destructeurs qui détruisent l'équilibre physique. L'équilibre physique qui provoque le cancer à longue échéance ou à courte échéance. Et tout d'un coup, après avoir gagné des milliards, à travers ce produit-là, quelqu'un va découvrir que c'est dangereux parce que ceci, parce que cela. En attendant, combien ont été contaminés à cause de cela? Mangez votre pundu du jardin, c'est bien meilleur. Mangez votre foufou que vous plantez là-bas, c'est bien meilleur. Nous pensons améliorer dans notre civilisation, mais simplement par rapport du gain, nous inventons toutes sortes de choses, et même des médicaments soi-disant miracles. Et qu'est-ce qui nous reste pour finir? Une population diminuée, des jeunes gens et des jeunes filles diminuées, physiquement parlant, complètement diminuées. Et certainement, à travers tous ces produits chimiques, il y a des transformations là-dedans qui fait que nous devenons déviés quant à la morale, sans aucune compréhension de ce qui est bien et de ce qui est juste. Bénissez Dieu pour votre pundu. David, bénissez Dieu pour votre foufou. Bénissez Dieu pour cette terre dans laquelle vous plantez et vous récoltez les fruits. Nous n'avons pas besoin de ces produits chimiques. Frères et sœurs, s'il vous plaît, revenons aux vraies valeurs, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit moral, les vraies valeurs afin d'être un peuple saint. Vous, enfants de Dieu, vous, enfants de Dieu, vous n'êtes plus Congolais, vous n'êtes plus Américains, vous n'êtes plus je ne sais quoi, mais vous êtes un nouveau peuple avec une nouvelle culture et la base même. Et le fondement de votre culture, elle est dans le Saint-Livre. Dieu nous appelle à vivre de cette vie-là. Dieu a institué le mariage. Mariez-vous. Dieu a institué la famille. Ayez votre famille. Aimez-vous entre hommes et femmes. Oui, ta femme. Oui, ton mari. Aimez-vous, car telle est la volonté de Dieu. Mais ne rentrez pas dans ces déviations contre nature. Déviation de tout genre quant aux mœurs, quant à la morale. Quand je vois les règles de Dieu en faveur de son peuple, ce n'était pas pour les ennuyer, mais c'était parce qu'il voulait un peuple saint, physiquement parlant. Arrêtez de vous bourrer de boissons sucrées, c'est mauvais pour la santé. Arrêtez de vous bourrer de toutes ces choses-là. Prenez cette bonne eau de source qui coule. Et si l'eau est polluée, si l'eau n'est pas sûre, vous la bouillissez. Et vous buvez cette eau bouillie que vous avez refroidie, évidemment, mais qui est exempte de germes. Bien souvent, nous sommes malades à cause de notre sottise. Dieu nous a donné une intelligence, frères et sœurs. En tant qu'hygiène, hygiène du corps, hygiène de la nourriture, nous ne sommes pas des bêtes. Madian veut nous tuer et nous piller notre sens moral, notre sens de la moralité et de la justice. Et nous nous laissons aller avec l'idée et la pensée des masses. Non, frères, sœurs, soyez forts dans un corps fort pour proclamer les vérités qui font vivre. Nous n'avons pas à combattre avec une arme et une arme blanche, une arme noire, je ne sais pas quoi, une arme qui secoue le corps quand on tire avec. Non ! Nous avons à combattre sur les genoux, contre ces puissances qui poussent les hommes à l'autodestruction, à l'autodestruction. Nous devons être des hommes éclairés, et nous ne sommes pas des hommes qui allons suivre la foule, parce que la foule va dans une direction, nous allons... Tout le monde y va. Non, j'y vais pas, parce que je pense autrement et que j'ai ma propre pensée sur ces choses-là. Et ma pensée, elle est en accord avec la pensée de Dieu. Notre seule force efficace, c'est de nous appuyer sur les promesses, la promesse de sa présence, de la présence du Seigneur, et être encouragé par son esprit qui habite en nous. Nous ne pouvons le suivre, le servir. Nous ne pouvons le servir et combattre avec nos propres forces. Nous ne pouvons suivre le Dieu de gloire, le Dieu de sainteté, avec simplement notre bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas. Je veux suivre le Seigneur, mais j'y arrive pas. Je veux vivre une vie sainte, mais je n'y arrive pas. Je veux être un exemple, mais je n'y arrive pas. Je veux marcher avec lui, non plus comme autrefois, mais maintenant dans une nouvelle vie. Je n'y arrive pas. C'est vrai. Qui peut suivre un tel standard? Dieu a mis le standard bien haut, et moi je suis bien bas. Frères, sœurs, c'est là où nous devons encore réaliser que là où nous nous trouvons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le domaine du surnaturel. Il faut l'intervention de Dieu. Il faut l'intervention du Dieu puissant, du Créateur. Et il va intervenir en notre faveur. Gédéon, quand il s'est trouvé devant cette responsabilité, mais il a dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis le plus petit de ma famille, je suis le dernier de ma famille. Et aujourd'hui, tout le monde est pauvre, nous n'avons plus rien. Et tu me dis que moi, je vais chasser Madian, mais je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Mais le Dieu fort peut. Le Dieu fort peut. Et quand il commande, il donne la force de le faire. Mais écoutez, Dieu n'ignore pas qui nous sommes. Dieu n'ignore pas qui nous sommes. Il y en a certains parmi nous, je me demande s'ils réalisent ces choses-là. Je me demande, pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de progrès. Pourquoi? Parce qu'après les années, les voilà toujours qui traînent la patte, excusez-moi le terme, mais qui n'avancent pas. Tout simplement, ils n'ont pas pris leur position en Christ. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à être un Gédéon, mais peut-être que Dieu t'appelle simplement à faire partie de ces 300 hommes qui ont combattu avec Gédéon. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que dans toute entreprise, lorsque Dieu demande de conduire une entreprise, quelle qu'elle soit, à ce niveau, pour un but, afin de gagner des batailles, il va choisir un homme pour diriger la troupe. Et la troupe va suivre cet homme. Dieu a choisi un Gédéon. Et je vous assure que quand Dieu a choisi Gédéon, il ne comprenait pas le choix de Dieu. Non, non, non. Non, 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 non. Je ne comprends pas le choix de Dieu. Pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Nous ne pouvons le servir et combattre avec nos propres forces. Quelle est ma force? Quel est mon pouvoir? Quelle est ma sagesse? Quelles sont mes possibilités? Seigneur, tu m'as choisi. Je ne comprends pas. Tu aurais pu choisir un autre. Pourquoi m'as-tu choisi, moi? Quand Dieu a envoyé Gédéon, c'est avec la promesse de sa présence. C'est avec la promesse de sa présence. Comme vous voyez, nous suivons ce que nous avons déjà commencé, déjà depuis quelques dimanches, dans Juges au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi et tu combattras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Montez un peu les choses. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. C'est Gédéon qui parle. Il dit ça à l'ange de l'Éternel. Il ne sait pas encore exactement qui est cette personne qu'il a ainsi interpellée. Mais il sent qu'il y a quelque chose de spécial. Alors il lui dit, donne-moi un signe que que c'est toi qui me parles. Et ensuite, il continue immédiatement en disant, « Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Merci, ça va mieux maintenant. « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » C'est l'ange qui lui répond. Gédéon alla préparer un chevreau. Il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. La promesse de Dieu vis-à-vis de Gédéon est celle-ci. « Je serai avec toi et tu combattras Madian. Va avec cette force que tu as. » Voilà la promesse donnée à Gédéon. Mais Gédéon demande, « Mais comment puis-je aller ? Comment puis-je aller ? Qui suis-je devant un tel besoin ? Qui suis-je devant une telle déchéance morale ? Israël adore les Baals. Israël adore les Astartés. Israël a violé le commandement. » Oui, c'est vrai, j'ai accusé l'Éternel et j'ai dit, mais l'Éternel nous a oubliés. Mais je comprends maintenant que ce n'est pas l'Éternel qui nous a oubliés, c'est nous qui avons oublié l'Éternel. Et que les conséquences dont tu as parlé à Moïse et au peuple d'Israël lorsqu'on violerait ta loi, ce sont ces conséquences qui nous tombent dessus. Et si nous sommes en peine, et si nous sommes en souffrance, et si des pillards sont en train de prendre tout ce que nous avons et à nous détruire, c'est à cause de notre infidélité. C'est à cause de notre méchanceté. Mais dans ta grâce et ta miséricorde, tu me dis maintenant que tu seras avec moi. Et tu me dis d'aller avec la force que j'ai. Mais moi, je n'ai pas de force. Moi, je n'ai pas d'armée. Moi, je ne suis pas un général. Moi, je ne suis pas un financier. Moi, je ne suis pas un homme de troupe. Je ne suis qu'un cultivateur. Et je cultive la terre avec mon père. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont plus qualifiés que moi. Je sais que tu m'as fait une promesse. C'est vrai. Mais, ô Dieu, as-tu compris? As-tu réalisé que moi, je suis le dernier de ma famille? Comment puis-je aller? La tâche est trop grande pour moi. Et moi, je suis trop petit pour un tel travail. Je n'ai pas de qualification particulière. Et en plus de cela, qui va m'appuyer dans une telle entreprise? Qui va être avec moi, Seigneur? Qui va me soutenir moralement parlant, matériellement parlant? Qui va me soutenir? Qui va me suivre dans une telle entreprise? Nous sommes parmi les plus petits en Manassé, ô Dieu. Et je suis le plus jeune de toute ma famille. Et c'est à moi que tu demandes une telle chose. Oui, tu dis que tu es le plus petit. Tu dis que ta famille est pauvre. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Joas était un homme d'une certaine importance. Il n'était pas véritablement pauvre, comme s'entend le mot. Maintenant, appauvri, c'est vrai, appauvri à cause des pillages successifs, année après année, il n'y a plus de revenus et il y a le danger continuel. Et c'est à peine si on arrive à manger, d'accord. Mais en réalité, Gédéon, tu deviens très négatif. Ton père a de bonnes terres. Et toi, Gédéon, tu as des serviteurs. On le verra plus tard. Il a pris 10 de ses serviteurs pour l'aider. Nous le verrons plus tard. Mais Gédéon n'est pas positif. Gédéon est découragé. Il est découragé. Rempli de son insuffisance, rempli de sa faiblesse personnelle, de son incapacité. Voilà. Ça, c'est Gédéon. Il me dit, Seigneur, voilà, comment tu peux me demander à moi de faire une telle entreprise? Qui suis-je pour que tu me choisisses? Qui suis-je? Ne peux-tu pas trouver quelqu'un de meilleur que moi? Trouver quelqu'un de plus fort que moi? De plus intelligent que moi? Oh, mais Gédéon, tu ne sais pas. Peut-être, évidemment, que tu n'as pas autant de recul que nous, aujourd'hui, en notre âge. Nous avons beaucoup plus de recul et de vision dans les choses merveilleuses que Dieu a faites dans le passé. Mais si tu étais là, Gédéon, je te dirais, eh bien, regarde l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, quand il est venu. Il a choisi des hommes, mais il n'est pas allé dans les grandes universités des rabbins de l'époque pour chercher ses successeurs, pour chercher ceux auxquels il allait confier son message. Il n'est pas allé dans les grandes écoles de théologie. Il n'est pas allé chercher ceux qui avaient des doctorats en théologie, des licences en théologie. Il n'est pas allé chercher ceux qui avaient des maîtrises en théologie. Non, non, non! Où est-ce qu'il est allé chercher? Il est allé chercher au bord du lac parmi les pêcheurs qui jettent le filet. Ceux que le monde rejette, ceux que le monde méprise. Il est allé vers eux. Pourquoi? Eh bien, parce que ceux-là ne savent rien et ils peuvent leur enseigner quelque chose. Tandis que les autres, ils vont dire, oui, nous savons. Oui, nous avons appris. Les rabbins nous ont dit ceci. Les rabbins nous ont dit cela. Oh non, ce que tu dis là, non, c'est pas raisonnable. Non, non, non. Jésus n'est pas venu à chercher ceux qui savent tout. Il est venu chercher ceux qui savent rien. Afin de les former. Ne me dites pas que celui qui sait rien, il va le laisser ne rien savoir. Non! Mais il les veut à son école. Il les veut à son école. Et croyez-moi, celui qui vous parle, il sait bien de quoi il s'agit. Vous ne connaissez pas ma route. Mais peut-être vous seriez étonné si je vous la racontais. Car je me souviens le temps de ma vie. C'était dans 1952, hiver 52. J'étais sorti d'une école en Angleterre. Et voilà, je voulais repartir et prêcher l'évangile en Afrique. Et c'était exactement mon raisonnement, le raisonnement de Gédéon. Pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi m'as-tu choisi? Tu aurais pu choisir un autre bien meilleur que moi. Ce que je vous dis là, c'est exact. J'avais mon combat. J'en parlais à personne, ni même à mon père ou à ma mère. J'étais seul dans ce combat. Je disais, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Seigneur, quand je suis devant la foule, je tremble et j'ai peur. Je ne sais pas parler devant le public. Et quand je suis devant le public, Seigneur, je perds mes moyens. J'étais très timide. J'avais grandi dans la forêt équatoriale. Et je me souviens, cet hiver, j'avais des amis, nous étions quelque part dans la montagne en Suisse, ils m'avaient prêté une paire de skis et je faisais du ski dans la montagne. Et nous allions partir pour aller rejoindre le port de Marseille et prendre un bateau pour retourner au Gabon. J'ai apporté ces skis à ces amis qui me l'avaient prêté. J'étais seul avec mon combat, je ne comprenais pas, je me sentais incapable. Je ne savais pas, vous allez appeler ça complexe, c'est tout ce que vous voulez, d'accord, d'accord, d'accord. Mais je sais qui est cet homme, et qui qu'il soit, il est incapable de faire une œuvre pour le Dieu vivant, à moins que ce Dieu le touche. Qui est capable d'accomplir une telle tâche? Qui est capable de prêcher cet évangile? Qui est capable de faire connaître les voies de l'éternité? Qui est capable de vivre cette vie nouvelle en Christ? Qui? Qu'il se lève! Je voudrais le voir. Ce n'est pas l'école de théologie qui nous rend capables. Nous avons besoin que Dieu nous touche. Nous avons besoin d'un réel appel qui vient de lui. Je me souviens quand j'apportais ces skis avec mon problème que je ruminais en moi. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont donné un feuillet de calendrier, ces amis, où il y avait un verset biblique dessus. J'ai pris cela, j'ai mis dans ma poche. Et en rentrant à pied jusque là où nous étions, je sors ce billet de calendrier et je lis le verset. Et ce verset est allé droit à mon cœur. Il était écrit, « Va avec cette force que tu as. » Et j'ai commencé à argumenter avec le Seigneur, « Quelle est ma force? Quelle est ma force ?» J'essayais d'analyser, j'essayais, je voyais tout ce que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas pu avoir. Et alors, le Seigneur m'a dit dans mon cœur, tu te souviens, lorsque je t'ai baptisé de mon esprit, je t'ai donné une force. Et la force dont il est question, ce n'est pas ta force à toi, mais c'est la force que je t'ai donnée. Va avec ce que je t'ai donné. Telle était mon expérience. C'était un long chemin, une longue route. Et ce que je prêche, ce sont des choses que j'ai vécues. Frères, sœurs, aucun d'entre nous ne sommes suffisamment valables pour accomplir cette tâche à laquelle il nous a appelés. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une organisation qu'on appelle Assemblée de Dieu, qu'on appelle protestant, qu'on appelle baptiste, ou que sais-je encore. L'Église de Jésus-Christ, c'est un corps spirituel d'hommes et de femmes qui ont décidé de marcher selon les principes du royaume, qui ont décidé de marcher dans la sainteté, qui ont décidé d'obéir aux lois de la parole de Dieu, qui ont décidé de marcher dans cette morale et cette vérité et cette transparence qui nous est décrite dans la parole de Dieu, du vrai, du véritable christianisme. Tout le reste, ce n'est que des tromperies. Nous ne sommes pas là pour suivre la foule, mais nous sommes là pour suivre Jésus-Christ. Je ne suis pas le meilleur en Israël. Je ne suis pas le mieux instruit. Je ne suis pas le plus capable. Je ne suis pas le plus sage. Comme disait Moïse, lorsqu'il a argumenté avec Dieu, je ne sais pas parler. Chaque fois qu'il faut parler, je bafouille. Et toi, tu me demandes d'aller parler à Pharaon. Toi, tu me demandes de parler à Israël. La seule fois où j'ai essayé, Israël n'a même pas compris. Et ils m'ont renvoyé, alors que j'avais des bonnes intentions envers eux. Dieu dit, tu vas. Mais Dieu, je ne peux pas. Dieu lui dit encore, tu vas. Mais Dieu, je ne sais pas. Alors Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché avec Moïse. Il a dit, j'appellerai ton frère Aaron et il sera ton porte-parole, puisque c'est comme ça. Je crois que Moïse a perdu une bénédiction, là. Du reste, son frère Aaron, malheureusement, il a fait des grosses bêtises. Il a fait des grosses bêtises. Pensez donc, quand Israël a monté le veau d'or, il a aidé à fabriquer ce veau d'or. Et après, il dit, « Oh, mais ils ont voulu. Mais quoi, qui est le chef ici ? C'est toi qui avais la charge, non ? Ce que fait le peuple, tu en deviens responsable. » Tu n'as pas souffert jusqu'à la mort pour la vérité. Au contraire, tu as suivi la foule. Tu as suivi la foule. Un homme seul avec Dieu est une majorité. Tout le monde peut être contre toi. Mais si tu te tiens du côté de la vérité, Dieu sera à ton côté. Dieu ne va jamais abandonner ceux qui veulent marcher dans la lumière et la vérité. Non! Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse. Je suis avec vous. Gédéon n'avait aucune confiance en lui-même pour accomplir une telle œuvre qui est de délivrer Israël de Madian. Il n'avait aucune confiance en lui-même. Il a raison. Dieu nous demande d'accomplir des choses qui nous dépassent. Dieu nous demande d'accomplir des choses qui rentrent dans le domaine du surnaturel. Voilà! Tout ce que Dieu fait est surnaturel. Sachons bien, nous nous tenons dans le domaine du surnaturel. Ce sont des choses qui nous dépassent. Et automatiquement, l'homme naturel, quand Dieu lui confie une telle tâche, il se met à trembler. Moi, je doute dans celui qui dit, « Oui, Seigneur, je sais, je peux. J'ai les capacités. Je suis du reste très intelligent. J'ai réussi à l'école à tous les niveaux. J'étais même le meilleur de ma classe. Seigneur mon Dieu, moi, je suis costaud. Je peux réussir. Oui, oui, Seigneur. Oh, tu m'as appelé, mais oui. Seigneur, tu es très intelligent. C'est normal que tu m'appelles, moi. » L'attitude de certains, c'est ça. C'est ça. Ils imaginent que les bonnes études, la bonne école, la capacité naturelle et la brillance dans les études justifient qu'ils deviennent des prédicateurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Si tu as fait des bonnes études, d'accord. Mais ça, c'est le domaine du naturel. Mais Dieu travaille dans un autre domaine. Et combien de fois nous sommes bloqués et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit d'intelligent selon Dieu parce que nous nous appuyons sur notre savoir naturel au lieu de s'appuyer sur Dieu. Nous disons, je connais, je sais, j'ai fait de hautes études, donc j'arriverai. C'est pas vrai. C'est un autre niveau, bien plus élevé. Tandis que les Gédéons, ils vont dire, Seigneur, je peux pas. Je ne sais pas, je ne suis pas le plus brillant en école, je n'ai pas tous les diplômes, et tout ça. Dieu dit, bon, c'est bien, je me glorifie dans les choses qui ne sont pas, et dans les choses que le monde rejette. Et la gloire ne sera pas à la chair, mais sera à la gloire de Dieu. Donc, je te choisis. Tu trembles, c'est bien, continue à trembler, mais laisse ta main dans ma main, et moi, je te conduirai. N'est-ce pas merveilleux d'être conduit par Dieu? Et croyez-moi, celui qui est véritablement conduit par Dieu, il ne va pas s'en vanter. Dieu me conduit, Dieu m'a révélé, j'ai une révélation, etc. Non! Il garde son secret entre lui et Dieu. Et les autres, quand ils le verront, ils diront, oui, cet homme est un homme de Dieu. Pourquoi? Non à cause de lui-même, mais à cause de ce que Dieu fait à travers lui. C'est le choix de Dieu. Sommes-nous le choix de Dieu? Oui, c'est vrai. Dieu nous demande d'accomplir des choses surnaturelles. Voilà ce qu'il demande. Vous m'entendez, prédicateurs de l'Évangile? Vous qui êtes ici à la borne et qui suivez et qui avez une formation, gloire à Dieu, nous voulons que vous connaissiez un peu la parole de Dieu. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Mais sachez que vous êtes incapable, pas plus que celui qui vous prêche. J'étais conscient de mon incapacité à travers les années jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est que lui qui est capable. S'il peut s'exprimer à travers nous, ne laissons pas le péché, la suffisance, l'orgueil, saper, piller, nous voler les valeurs de Dieu. Non. Proverbe 28, 26. Il est dit là. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Voilà une parole de sagesse. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Un insensé, c'est un fou. Un fou, c'est un homme sans intelligence. Voilà. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Ce que Dieu vous appelle à faire, n'est pas dans le domaine du naturel et dans le domaine du surnaturel. Donc, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Gardez-vous de faire quoi que ce soit, d'entreprendre quoi que ce soit, simplement au niveau du naturel. La chose la plus merveilleuse est que c'est justement ça, à ce niveau que Dieu commence avec une personne qu'il a choisie pour accomplir une tâche particulière. Il commence avec cette personne qui n'a pas confiance en son propre cœur. On dit, à part avec cette personne qui va dire, « Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, je ne peux pas. » C'est ce que Gédéon a dit. Eh bien, voilà, c'est justement la personne que Dieu va choisir. Oh, il va trembler. Soyez sûrs, il va trembler. Il va pleurer. Il va dire, « Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, donne-moi la parole. Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire. Seigneur, je veux faire ta volonté. Si je ne suis pas dans ta volonté, tu ne seras pas avec moi. Mais il faut que tu sois avec moi. Si tu es avec moi, alors je suis rassuré. Mais seul, je ne peux pas. S'il te plaît, s'il te plaît. » Cet homme va pleurer à ses pieds. Cet homme va lui demander son secours. Ah, merci Seigneur, car ça, c'est le chemin. Ça, c'est le chemin. Nous le voyons à travers toute la parole de Dieu. La confiance de l'homme en lui-même est trop souvent un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. J'ai des fois peur, qu'on tombe dans un intellectualisme spirituel. Ça, je vous assure. J'ai des fois peur, lorsqu'on pousse à des hautes études, doctorat, etc. Pourquoi pas, d'accord. Mais, allez-vous savoir gérer ces choses-là? Il y en a qui savent le gérer. J'ai rencontré des frères qui ont vraiment un haut niveau académique, docteur en théologie et que sais-je. Mais quand vous les voyez comme un simple homme. Comme un simple homme qui savent ce qu'ils sont en réalité. Que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Tandis que d'autres, il faut que tout le monde sache que c'est le docteur tel et tel. Et du reste, on a tendance à leur donner la prérogative quant au jugement, quant aux paroles, quant à la décision. Pourquoi? Parce qu'ils sont docteurs. Mais ça prouve quoi? Quelle est leur relation avec Dieu? Attention! Nous sommes à un niveau différent que celui du naturel. Laissons le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. La volonté humaine risque de prendre le dessus. Car l'homme croit en ses pensées, en ses capacités, en son savoir, en son habilité, et ne se confie pas en Dieu. Celui qui a trop de connaissances a tendance à s'appuyer sur ses connaissances plutôt que de s'appuyer sur l'excellence divine. Oh, je sais, oh, je connais du reste, j'ai appris, etc. Bon, c'est bien. Mais tout cela, c'est dans le domaine du naturel. Ô Dieu, aide-nous à faire la différence. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On néglige la prière. On néglige la méditation de la parole. On a une haute opinion de soi-même. Et désormais, quoi qu'on dise des choses fort bonnes, il y manque cette dimension du surnaturel. Il y manque cette dimension spirituelle. Et cet homme désormais agit par lui-même. Qu'est-ce qu'il est dit dans Proverbe 22, 17? Prête l'oreille et écoute les paroles des sages afin que ta confiance soit en l'Éternel. Écoute les paroles des sages. Qui est sage? Aucun homme par lui-même. Mais est sage celui qui est conduit par l'Esprit. Et celui qui laisse l'Esprit parler à travers sa bouche. Gédéon a encore beaucoup de choses à nous dire. Baissons la tête, s'il vous plaît. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, car l'entreprise dans laquelle nous sommes engagés, c'est une entreprise, Seigneur, qui nous dépasse. Une entreprise dans laquelle il faut plus que l'intelligence humaine, plus que la sagesse humaine. C'est une entreprise, Seigneur, qui a des dimensions éternelles et qui a des dimensions dans un domaine qui n'est pas naturel à l'homme naturel. Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu cherches des Gédéons. Tu cherches des hommes qui ne peuvent pas, des hommes qui ne savent pas, des hommes qui sont humainement incapables, des hommes que le monde ne choisirait pas pour de telles tâches. Tu les cherches, Seigneur, afin que ces hommes aux pieds, à tes pieds, apprennent et agissent. Agissent par la foi et agissent selon tes commandements et non pas selon leur propre sagesse. Seigneur, tu nous as parlé. Que cette parole pénètre dans nos cœurs par ton esprit. Au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.